Bonjour, c'est la dernière journée du mois de février 2018, le 28 aujourd'hui. Bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous accompagne. Désolée, ça a été long, mais il y a un problème technique. Là, ça griche tellement dans les oreilles, mais on va régler ça, j'imagine. Bienvenue et bonjour, Maurice.
Oui, salut.
En forme?
Oui, vous?
Oui, ça va très, très bien. Mm-hmm. En ce mercredi printanier. Alors, on vous écoute dans les éphémérides.
Oui, donc 28 février, comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui. Ou des fois, c'est peut-être le 29, il faudrait vérifier, là, j'ai les deux dates ici. C'est la journée internationale pour les maladies rares, on les souligne aujourd'hui et demain dans 4 ans. Donc, c'est le 29 février dans 3 ans, il faudrait vérifier pour l'année bissextile. Sinon, pour aujourd'hui, je trouve ça quand même intéressant pour tous les addicts, ceux qui ont une petite dépendance, c'est la journée mondiale sans Facebook pour sensibiliser les gens à la cyberdépendance et aux intrusions dans la vie privée.
Allez-vous être capable de ne pas y aller aujourd'hui?
J'imagine.
Petit moment d'hésitation.
Oh, non. Bon, moi, je ne l'ai pas sur mon téléphone dit intelligent.
Bon.
Si on m'a conseillé ça, ça fait pas longtemps que j'ai un téléphone cellulaire. On m'a dit, tu ne mets pas Facebook sur ton cellulaire, jamais.
C'est dangereux, hein?
Donc, au moins, je ne l'ai pas sur mon cellulaire de la paix.
Ça aide à la cyberdépendance.
Ça aide à contrer la cyberdépendance. Oui, absolument. Donc, j'ai quelques événements en ce 28 février. En 1525, il avait un nom prédestiné, Cuauhtémoc, qui veut dire l'aigle qui tombe. C'est le dernier empereur aztèque, qui est assassiné par les Espagnols. En 1825, il y a un traité entre l'Angleterre et la Russie pour fixer les frontières de l'Alaska, qui quelques années plus tard sera vendu aux Américains. En 1933, le gouvernement nazi supprime les libertés civiques en Allemagne. Pardon. En 1935, il y a une invention d'une matière plastique utilisée comme fibre textile qu'on a baptisée le nylon. Donc, ça a servi entre autres pour faire des bas. Peut-être d'autres choses aussi, j'imagine, le nylon. Une matière très résistante. Sûrement. En 1948, Vincent Massé prête serment comme gouverneur général. C'est le premier gouverneur général qui soit né ici au Canada. En 1957, Gaston Lagaffe fait son entrée. Il apparaît en bande dessinée. On le voit pour la première fois dans le journal Spirou. C'est le premier anti-héros de la BD créée par Franquin. Et d'ailleurs, il y a un film qui sort dans les semaines à venir. Ils ont fait un film sur Gaston Lagaffe. Est-ce que ce sera drôle? Je ne sais pas.
Est-ce que ce sera du vrai monde?
Peut-être.
On verra bien.
On a vu les bandes-annonces. C'est pas plus ou moins convaincant, mais en tout cas, faut voir le film. Des fois, les bandes-annonces...
C'est trompeur.
Oui, à l'occasion, oui, ça arrive. En 1961, Québec crée la commission Parents sur l'enseignement, et qui, avec son rapport en 1963, entraînera une profonde réforme, entre autres la création du ministère de l'Éducation. En 77, la société d'État Via Rail est créée pour assurer le service aux passagers. Entre-temps, ils ont coupé beaucoup. En 1983, l'Union européenne interdit l'importation de la fourrure de bébé phoque. Et en 83 aussi, c'est l'apparition du lecteur laser et du disque compact qui devait révolutionner. Mais ça a révolutionné un peu le genre. Après ça, il y a eu le retour du vinyle. Le numérique aussi a pris beaucoup de sa place. En 2010, les Olympiques s'achevaient. Et en 2010, l'équipe masculine de hockey du Canada remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Vancouver en battant les États-Unis 3-2 en prolongation. Pour ceux qui l'ont vu, c'est Sidney Crosby qui avait compté le but. Là.
Ça avait été le héros.
Des Olympiques. En 2013, Saint-Benoît XVI quitte le Vatican.
Il était fatigué, devenant
le premier pape en près de 600 ans à renoncer à ses fonctions. quand même chose assez rare. Mm-hmm. J'ai une naissance seulement, c'est le peintre italien Raphaël qui naît en 1483. J'ai aucun décès. Belle journée.
Maurice, moi j'ai une autre naissance, vous la connaissez bien. C'est Marjorie Théodore. Marjorie Théodore, présidente directrice générale de Vues et Voix.
Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Marjorie. Bonne journée. Une journée formidable, douce, printanière. Alors, on vous embrasse bien fort. Vous savez que Canal M, c'est la radio de Vues et Voix. Alors, Marjorie, c'est notre patronne. Merci, Maurice. À la une de la presse aujourd'hui, infiltration d'un réseau de contrebande de tabac quand la SQ fait son cinéma. Retour sur le budget fédéral, la chronique de Stéphanie Grandmont intitulée « Un budget importé du Québec », celle de Francis Veil « Au diable, le déficit zéro ». Groupe Juste pour rire, exclusif à la presse, le groupe américain en voie de gagner sa mise, mais Québécois n'a pas dit son dernier mot. Et la chronique de Patrick Lagacé, 10 heures d'attente pour une ambulance. Nouvelle de dernière heure publiée dans la presse plus, la ministre de la Justice Stéphanie Vallée a choisi de ne pas se porter candidate au scrutin du 1er octobre, selon ce qu'a appris la presse canadienne de sources sûres. À ce jour, c'est la seule membre du cabinet Couillard qui compte 30 ministres à avoir indiqué son intention de quitter la vie politique au terme du présent mandat. Mais quelques-uns de ses collègues pourraient lui emboîter le pas, ayant entrepris eux aussi une réflexion sur leur avenir politique. Et une autre mise à jour dans la presse. Plus, malgré l'intention d'abandonner le controversé système de paye Phoenix exprimé dans le budget fédéral, les syndiqués de la fonction publique du Canada ont de nouveau organisé une manifestation mercredi à Montréal, donc aujourd'hui, pour demander au gouvernement Trudeau d'accélérer le pas pour régler le problème qui perdure depuis 2 ans. Une centaine d'employés fédéraux ont exprimé leur colère dès 6 heures ce matin contre le système de paye Phoenix devant un immeuble fédéral de la rue Peel. Les membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec, déplorent la lenteur du processus et exhortent le gouvernement à agir de manière structurée et non improvisée. Dans la section débat, l'éditorial d'Ariane Kroll, des éléments attendus qui n'étaient pas au rendez-vous, des projections pleines d'incertitudes, voici 2 enjeux absents du budget Morneau et 2 autres qu'il faudra suivre de près. 2 éléments absents du budget, le retour à l'équilibre budgétaire, on s'en doutait un peu, mais avec ce budget qui couvre l'année financière 2019-2020, la promesse électorale d'un retour à l'équilibre budgétaire en 2019 semble définitivement écartée. Le ministre Morneau continue à mettre l'accent sur le ratio de la dette au produit intérieur brut, ce qui lui permet de donner une lecture flatteuse de ses projections. En plus de s'améliorer, cette mesure lui permet de se comparer avantageusement à d'autres pays industrialisés. Le ratio de la dette fédérale au PIB, qui est de 30,4% pour l'année financière en cours, devrait descendre à 28,4% en 2022-2023, prévoit le budget, À ce niveau, il sera non seulement le plus bas du G7, mais il sera aussi deux fois moins élevé que la moyenne de ces pays, souligne le document. Le taux d'inclusion du gain en capital, c'est le yéti des budgets morneaux. Chaque fois, la rumeur d'une possible hausse du taux d'inclusion du gain en capital reprend de plus belle pour se dissiper à la lecture des documents, donc un second élément absent du budget. Deux dossiers à suivre, environ 690 millions les revenus de la taxation du cannabis. Ce sont les taxes qu'Ottawa prévoit récolter au cours des 5 prochaines années grâce aux ventes légales des produits de cannabis. C'est de loin la projection la plus chargée de suspense de ce budget. Et le coût du débranchement, vous pensiez économiser en vous désabonnant du câble? Ottawa vient de vous rattraper au détour. La baisse des abonnements aux services de télédistribution par câble, par satellite et par protocole Internet diminue les contributions de ces entreprises au Fonds des médias du Canada, menaçant le financement disponible pour la production de contenu audiovisuel canadien. Pour compenser ce manque à gagner, la ministre de la Culture avait promis l'automne dernier d'augmenter la contribution gouvernementale. La facture vient d'arriver. Il en coûtera 15 millions aux contribuables pour l'année à venir, 2018-2019, presque le double la suivante et près du triple, 43 millions, à partir de 2020-2021, si tout va bien. Le fédéral s'engage en effet à maintenir le financement du fonds au niveau de 2016-2017 et donc à verser davantage si le fossé se creuse plus que prévu. Pour pouvoir continuer de voir des productions canadiennes à l'écran, c'est très bien. Mais quand on songe qu'une partie du problème vient du fait que bien des consommateurs se tournent vers d'autres services payants, Netflix, Amazon, iTunes, etc., qui, eux, ne contribuent pas au fonds des médias, ça laisse un goût amer. En étant forcés de payer la note, les contribuables canadiens se voient imposer indirectement une forme de taxe Netflix. Tout n'est pas joué, mais le groupe américain ICM a pris une avance importante sur son seul concurrent pour l'achat du groupe Juste pour rire, a appris la presse de sources sûres. À moins d'un revirement, le groupe passera à des intérêts américains dans les prochains jours. Du côté de Juste pour rire, on s'interroge sur les risques qu'une controverse éclate au Québec autour de la vente du groupe à des intérêts étrangers. Mais la vente était incontournable et l'activité économique, les retombées ainsi que les emplois seront maintenus, indiquent d'autres sources. L'entente ne comporte pas de disposition sur un plancher d'emploi, mais comme ICM ne compte aucun employé au Québec, on s'attend à ce que la poursuite des activités nécessite le même personnel. Les discussions qui se poursuivent incluent la question du maintien du siège social à Montréal. Du côté de Gilbert Rozon, on espère toujours conclure la vente à très court terme dans les prochains jours. ICM devance son concurrent, le groupe dirigé par le milliardaire albertain Daryl Katz, sur plusieurs points. Pierre-Carl Péladeau et Québécois auront 12 jours pour exercer leur droit de premier refus. Le délai initial de 30 jours a été ramené à 12 par la Cour. Québécois a été débouté par le tribunal. Le processus de vente du groupe Juste pour rire avait débuté en octobre dernier, après les allégations d'agression et de harcèlement sexuel contre son fondateur et propriétaire Gilbert Rozon. Interpellée par des maires inquiets, la Fédération québécoise des municipalités, FQM, demande au Mouvement des Jardins un moratoire sur les fermetures de guichets automatiques et de comptoirs de services dans la province. Le président de la FQM, Jacques Demers, a écrit hier au président du Mouvement des Jardins, Guy Cormier, pour solliciter la création d'un comité mixte avec des représentants de l'institution financière et du monde municipal pour discuter de solutions qui permettraient de conserver dans les petites communautés ce qu'ils considèrent comme des services essentiels. En attendant la création du comité, la FQM réclame la suspension des autres fermetures prévues par Desjardins. La disparition de ces services suscite des inquiétudes majeures dans toutes les régions. Il faut que les besoins du milieu soient mieux écoutés, souligne Jacques Demers, qui est aussi maire de Sainte-Catherine-de-Hatley en Estrie et préfet de la MRC de Memphrémagog. Le président du Mouvement des Jardins, Guy Cormier, s'est dit prêt lundi à discuter de certaines solutions avec les élus municipaux. M. Cormier n'était pas disponible hier pour répondre à nos questions sur les demandes de la FQM. Reprenant les critiques lancées par plusieurs maires qu'il a lui-même formulées à quelques reprises, l'ancien président du Mouvement des Jardins, Claude Bellan, a accusé l'institution coopérative de renier ses origines en se retirant des petites localités.
J'ai même parfois touché. Quand il faisait trop noir, je suis retournée tenter encore une fois ma chance. Mais les gens ne pensent qu'à boire. Quand tout d'un coup le cinéma commence, chacun vit une histoire, ouais. Dans les cinémas bas, on voit de tout. Chacun joue le rôle dont il a toujours rêvé. Va au cinéma, bas de ton quartier, jouer à devenir n'importe qui. J'ai vu des hommes se prendre pour des femmes dans les cinémas, bas. J'en ai vu d'autres ensuite et quand on leur dit madame. Mais comment peut-on savoir quand tout le bar m'abrège la bonne nouvelle? Son client troublé, ensuite il reste rien de personnel qui fait tout oublier, ouais. Dans les cinémas bas, on voit de tout, chacun joue le rôle dont il a toujours rêvé. Va au cinéma bas de ton quartier, jouer à devenir n'importe qui.
Andrea Lindsay qui nous chantait les cinémas-bars.
À la une du Devoir de ce 28 février 2018, budget fédéral, Morneau dit préparer l'avenir. Le ministre des Finances choisit d'investir dans différents programmes plutôt que de tendre à l'équilibre budgétaire. Une photo où l'on voit le ministre des Finances, Bill Morneau, qui remet à une greffière de la Chambre des communes son troisième budget que certains ont qualifié de féministe. Rivière-des-Prairies pointe aux trembles, la CAQ choisit la mairesse comme candidate. Le PQ s'offre le luxe d'une convention opposant Jean-Martin Hossan et Maxime Laporte. L'homme qui a varlopé Donald Trump pour saisir un être aussi incohérent que le président américain, dit Michael Wolff, mieux vaut être écrivain que journaliste. C'est une correspondance de Christian Rioux qui est à Paris. Culture, je t'en passe un papier. Pas facile de nos jours de trouver des fournisseurs qui répondent aux besoins diversifiés des imprimeurs et dans des délais raisonnables, une conséquence méconnue des difficultés qu'éprouvent les journaux. « Syrie, même partielle, la trêve n'a pas tenu dans la Ghouta orientale. Et Québec, la Commission des droits de la personne critiquée pour ses délais. Des délais de plus de 7 ans pour obtenir justice dans des cas de discrimination, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est critiquée pour sa lenteur jugée inacceptable à rendre des décisions dans des dossiers de plainte. Jean-Charles, pseudonyme, a déposé en octobre 2011 une plainte à la CDPDJ, donc la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, pour discrimination raciale visant son employeur, la Société de transport de Montréal, STM. Plus de 6 ans plus tard, il n'y a toujours pas de décision rendue dans son dossier. La plainte est reçue, l'enquête est terminée, mais l'homme, d'origine haïtienne, voit son dossier stagner depuis 2014 à l'une des dernières étapes, soit l'énoncé factuel. Normalement, on fait nos commentaires à l'énoncé factuel et ça prend 6 à 7 mois pour avoir une décision. Mais là, c'est un trou noir, un trou sans fond et malgré nos appels téléphoniques répétés à la commission, on ne peut pas nous dire pourquoi ça prend du temps, dit Faux Niemi du Centre de recherche Action sur les relations raciales qui épaule M. Charles dans sa démarche. La Commission des droits de la personne refuse de commenter les cas particuliers, mais elle admet que ces délais sont trop longs. Santé, pas de hausse et plus de services. Le regroupement des médecins omnipraticiens pour une médecine engagée, ROM, propose de geler les sommes promises aux médecins du Québec pour mieux renégocier ces montants, afin qu'ils servent à l'amélioration du système de santé et des conditions d'exercice de la pratique médicale. Mardi, son président, Simon-Pierre Landry, a mis les fédérations de médecins au défi de consulter l'ensemble de leurs membres par le biais d'un vote afin que ceux-ci puissent dire s'ils souhaitent qu'une partie des montants réservés pour leur rémunération soit renégociée pour financer l'achat de services dont fait partie l'embauche de personnel. « Plus d'argent, ça ne me rendra pas plus heureux », a affirmé le Dr Landry, dont le regroupement a d'abord permis à 600 médecins de se réunir en 2015 pour contester la réforme Barrett. Projet de terminal pétrolier, l'eau potable de Montréal serait menacée selon le DSP. Construit il y a plus de 50 ans et aux prises avec plusieurs incidents, le pipeline Transnord poserait des risques majeurs pour l'approvisionnement en eau potable dans la région de Montréal, estime la Direction régionale de santé publique. Malgré cela, l'utilisation intensive de cette conduite dans le cadre du futur terminal maritime de carburant d'avion de Montréal-Est ne fait pas partie de l'étude d'impact du promoteur. En présentant le mémoire de la Direction régionale de santé publique de Montréal mardi, son porte-parole Luc Lefebvre a d'ailleurs déploré que le cas du pipeline ne soit tout simplement pas examiné dans l'étude d'impact produite par la CIAM, la Corporation internationale d'avitaillement de Montréal, en vue de l'évaluation du BAP. Cette omission est d'autant plus inadmissible selon la Direction régionale de santé publique que le pipeline Transnord traverse des cours d'eau dans lesquels un déversement d'hydrocarbures menacerait l'approvisionnement en eau potable de la population de l'agglomération de Montréal. En fait, a précisé M. Lefebvre, les prises d'eau sont toutes situées près d'une zone à risque en cas de déversement du pipeline. Si les enseignants ont l'emploi le plus important dans une société, comme l'affirme le ministre de l'Éducation, ils méritent une augmentation de salaire, surtout qu'ils ont les salaires les plus bas au Canada, rappellent les syndicats. Les réactions ont été mitigées au débat d'idées souhaité par le ministre Sébastien Proulx dans son livre lancé mardi à Québec. L'homme politique propose une série de réformes destinées à valoriser la profession d'enseignant, comme la création d'un ordre professionnel et une formation universitaire de deuxième cycle obligatoire pour les futurs maîtres. Égide Royer, professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, estime que les enseignants ont de bons arguments pour justifier des hausses salariales. Si on rend la maîtrise obligatoire pour les enseignants, c'est évident qu'il va falloir que les salaires augmentent, dit-il. Il est favorable aux mesures proposées par le ministre Proulx dans son livre. L'Ontario a connu une hausse spectaculaire de son taux de diplomation en prenant des décisions semblables à celles mises en avant par le ministre, explique le professeur. Ordre professionnel des enseignants, maternelle 4 ans et école obligatoire jusqu'à 18 ans, ce qui reste un lointain objectif au Québec. La qualité de l'enseignement est déterminante pour la réussite des élèves. Les hostilités ont repris mardi entre l'armée syrienne et les insurgés, compromettant une trêve humanitaire dans l'enclave rebelle assiégée dans la Ghouta orientale où près de 600 civils ont péri en 10 jours de bombardement du régime. La trêve quotidienne de 5 heures, 9 à 14 heures, heure locale, pour permettre l'entrée de l'aide ou la sortie d'habitants ou de blessés de l'enclave, a été décrétée lundi par la Russie, le grand allié du régime de Bachar al-Assad. Mais les protagonistes se sont aussitôt accusés mutuellement de l'avoir violée. « Cette trêve est une farce. Je ne peux pas faire confiance à ces auteurs pour partir avec ma famille. C'est le régime qui nous tue. Comment pourrais-je lui faire confiance? » dit Samer al-Bouidani. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez pour la suite avec la revue de presse du Journal de Montréal, notamment.
Le dos en marmelade et les reins en compote, les vertèbres en salade, j'ai sonné à la porte de la femme géante qui s'est manipulée, les bras articulés. Les chaises pliantes. Dans la salle d'attente, il y avait d'autres tordus qu'avait planté la tente. Alors j'ai attendu, craignant, je le confesse, d'avoir les os brisés, de mourir écrasé par ses énormes fesses. Et puis ce fut mon tour, le sort a le permis que ça tombe le jour. Le jour où j'avais mis un caleçon fantaisie que l'on m'avait offert pour mon anniversaire, le sort avait choisi de jolis cocotiers plantés sur une plage sous un ciel incendié, vierge de nuages. Et la femme géante m'a serré dans ses bras et nous avons dansé la bachata et crac, le méandre. Ce tableau charmant, nous étions tous les deux comme la Vierge et l'enfant, et nous avons dansé. Je me suis laissé faire, et un pas de côté, et un pas en arrière. Après la pachanga, j'avais le dos en vrac. Il n'y avait plus qu'à tout mettre dans un sac. Après la pachanga, j'ai remis mon pantalon. Soit il était plus court, soit j'étais plus long. La bachata est crack, le mélange est crack. La pachanga est crack, la guaracha est crack.
Thomas Fersen et la pièce La Pachanga.
À la une de la presse, budget fédéral 2018, 6 pages, des déficits au moins jusqu'en 2023. Le Canada dans le rouge. Au diable les dépenses. Le gouvernement Trudeau creuse son trou, une chronique de Mario Dumont. Torpiller son propre budget, Jonathan Trudeau, et G7 une fin de semaine à 606 millions, c'est une chronique de Michel Girard. Caisse de retraite, l'argent des médecins chez des marchands d'armes. Les coups de cœur mode de P.K. Subban. Et prêt à monter un arsenal qui fait peur. Un armurier prêt pour la guerre. Un Montréalais accusé de trafic d'armes cachait chez lui de quoi fabriquer près de 600 fusils d'assaut AK-47 et 180 silencieux, selon la preuve recueillie par les policiers. Les pièces permettaient de monter une arme opérationnelle qui pouvait tirer convenablement, a plaidé hier la procureure Josiane Laplante au procès d'Anatolie Vedovin. Vedovin, un résident de Côte-des-Neiges âgé de 48 ans, a d'abord attiré l'œil des autorités américaines en 2015 lorsqu'un agent fédéral de l'État de l'Alabama a découvert une annonce Internet proposant la vente de carcasses d'AK-47. Cette pièce sert de base à la fabrication de ce célèbre fusil d'assaut automatique de fabrication russe, capable de tirer 600 coups à la minute. L'agent spécial s'est alors fait passer pour un potentiel client prêt à acheter 5 carcasses pour 380 $ US. Lors d'échanges courriels, Vedovin aurait mentionné qu'il vendait aussi des silencieux. Une fois la transaction réalisée, l'agent fédéral recevait par la poste 5 carcasses d'AK-47 envoyées du Québec. L'agent a ensuite pu acheter 8 silencieux pour 1120 $ ainsi que d'autres pièces permettant de monter un fusil d'assaut automatique. Les autorités montréalaises ont immédiatement été prévenues qu'un potentiel trafiquant d'armes opérait au Québec et rapidement, Vedovin a été ciblé comme principal suspect. Des ados en sevrage de techno. Une quarantaine d'adolescents qui ont fait des crises quand leurs parents ont déconnecté le Wi-Fi ou le Wi-Fi, qui ne dormaient plus, ne se lavaient plus ou n'allaient plus à l'école pour être plus souvent en ligne, ont été traités en thérapie fermée au Québec depuis 3 ans. La majorité des adolescents cyberdépendants sont des accros de jeux en ligne. Toutefois, en cette journée mondiale sans Facebook, le coordonnateur des services professionnels au Centre Le Grand Chemin de Saint-Célestin en Mauricie, Miguel Thériault, estime qu'il ne faut pas sous-estimer la dépendance aux « likes ». On ne verra jamais personne dépendant de Word ni d'Excel. Ce ne sont pas des programmes addictifs. Il n'y a pas la rétroaction des médias sociaux, pas de réponse qui permet de vivre un plaisir, une satisfaction, un sentiment de réussite. C'est cette réponse-là qui devient addictive, explique celui qui les traite dans son centre. La cyberdépendance est en hausse au Québec comme partout en Occident. Même les docks investissent dans les marchands d'armes. Alors que le mouvement de grogne contre les armuriers prend de l'ampleur aux États-Unis, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ, continue d'investir dans des titres de fabricants d'armes à feu, a constaté le journal. La FMOQ, qui détient ses propres fonds d'investissement et de retraite pour ses membres, détenait hier des participants dans au moins deux ans, des participations, pardon, dans au moins deux des plus grands fabricants d'armes à feu aux États-Unis. Selon le site Morningstar, le fonds de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Action internationale, détenait au 31 décembre dernier plus de 5200 actions dans le fabricant d'armes Vista Outdoor et près de 1000 actions du fabricant Storm Roger & Company. Au Canada, le fonds FMOQ, Action internationale, fait partie des 10 plus gros actionnaires de ces deux fabricants d'armes à feu avec la banque TD, la banque CIBC et la banque HSBC, indique Morningstar. Joint par le journal, le responsable des fonds FMOQ s'est tout d'abord montré surpris de voir ses titres apparaître au sein du portefeuille international du Fonds de retraite des médecins québécois. « Vous me le dites et honnêtement, je n'en étais même pas conscient. On va demander au gestionnaire si cela a vraiment un impact de retirer ces titres-là de sa stratégie indicielle », a fait valoir le vice-président des fonds FMOQ, Jean-Pierre Tremblay. La mère de l'ex-chef de la mafia montréalaise, Vito Rizzuto, Libertina Mano, est décédée à 90 ans. La femme aurait eu une grande influence sur les activités de son mari, Nicolo Rizzuto, au cours de son règne et sur celle de son fils Vito. C'est grâce à sa famille mafieuse sicilienne que Nicolo et Vito auraient eu les coups des franges pendant tant d'années. Ils ont eu en quelque sorte l'aval de toute la puissante famille Mano de Cattolica, Eraclea, berceau de la mafia sicilienne. La chanteuse de pop égyptienne Shirin Abdel Wahab a été condamnée hier à 6 mois de prison pour avoir dénigré le Nil en plaisantant sur la qualité de son eau. Cette chanteuse à succès a écopé de cette peine prononcée par un tribunal du Caire pour avoir diffusé de fausses informations et troublé l'ordre public. Il y a quelques mois, des internautes avaient partagé sur les réseaux sociaux une vidéo d'un concert aux Émirats arabes unis où un fan demandait à la star de chanter « « Avez-vous bu l'eau du Nil », l'un de ses succès? « Tu attraperais la bilharziose », avait-elle répondu, en référence à une maladie provoquée par des vers parasites. Les mémoires de Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti d'extrême droite français Front National, sont épuisées avant même leur mise en vente et un nouveau tirage a été lancé après un premier à 50 000 exemplaires, indiqué hier l'éditeur. Le premier tome du livre de l'ancien président du Front National, intitulé « Fils de la nation », qui va de sa naissance en 1928 à la création du FN, Front National, en 1972, figure aussi en tête des meilleures ventes de livres sur Amazon, selon le site du distributeur en ligne. Ce premier tome sera vendu en ligne à compter d'aujourd'hui et en librairie à partir de demain. Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump, n'a désormais plus accès aux informations classifiées les plus sensibles de la Maison-Blanche. M. Kushner, qui est marié à Ivanka Trump, fille aînée du président américain, est chargé en particulier des négociations sur le processus de paix israélo-palestinien. Il avait jusqu'ici accès aux informations les plus sensibles, mais ne disposait que d'une autorisation temporaire. Or, l'exécutif a décidé de revoir les procédures après les révélations sur le conseiller Rob Porter, qui a été contraint à la démission en raison d'accusations de violence conjugale formulées par ses deux ex-épouses.
Comment l'asseoir, Mike? On va y aller pareil. On va faire rien, c'est le dernier, OK?
Je prends mon or dans la je fais des dollars en jouant du caramel, ni dur ni mou. Et j'envoie au ciel ceux qui sont pas trop sous, qui me lancent leur vieux 30 sous en me disant joue. Et je leur souris pour gagner ma vie. Ils me font merci, continue leur bruit, ou viennent dans mon dos pour taper sur un dos, ou baver sur les noirs du piano bar où je joue chaque soir. I'll remember you, goodbye Honolulu, un petit peu de tout. Je suis un voyou. Quand ils prennent la porte, y a trop de bière entre les nattes que je peux plus jouer foxtrot. Je me paye un blues à la finger le doux. Une grosse baille en or, un beau météore, propendant comme un dor. Les gens me crient encore, je suis aux oiseaux, le monde me lance des bravos. J'ai appris par oreille, mais ça me fait des sacrés bonnes veilles. Mais ça me fait des
Robert Charlebois qui nous chantait Joe Finger le Doux.
Tournée des journaux régionaux, on s'en va à Ottawa. La crise qui secoue le Bloc québécois n'aura pas été réglée. Les 7 députés opposés à leur chef Martine Ouellette ont annoncé leur démission du caucus bloquiste à Ottawa. Aujourd'hui, on était devant deux choix. Soit Mme Ouellette quittait ou soit nous partions, a dit Luc Thériault. Les Québécois méritent qu'on se tienne debout et qu'on fasse notre job pour eux. On ne pouvait plus continuer à se promener d'une crise à l'autre. On a tout essayé depuis un an, a-t-il poursuivi. C'est le cœur meurtri qu'on part aujourd'hui. Les 7 députés démissionnaires ont dit vouloir former un front fort pour défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Ils ont accusé Martine Ouellette d'être dans un déni total. Martine Ouellette s'adressera aux médias dans quelques minutes. Les députés démissionnaires vont siéger comme indépendants. Dans le droit, sous la plume de Daniel Leblanc, Phoenix sur le respirateur artificiel. Le gouvernement Trudeau évoque pour la toute première fois la mise au rancard le système de paye Phoenix qui, même 2 ans après son instauration, continue de donner de sérieux maux de tête à plusieurs milliers de fonctionnaires partout au pays. Dans le budget présenté mardi, Ottawa annonce son intention à long terme de reléguer aux oubliettes le système de paye qui défraie les manchettes quasi sur une base quotidienne depuis l'hiver 2016. Il concède que Phoenix pose encore beaucoup de défis de taille. Il est indiqué dans le volumineux document de 425 pages qu'on souhaite entreprendre l'élaboration de la prochaine génération du système de paie qui correspond davantage à la complexité de la structure salariale du gouvernement fédéral. Pour ce faire, Ottawa a l'intention d'investir une somme supplémentaire de 16 millions de dollars étalée sur 2 ans afin d'élaborer les étapes subséquentes menant à la mise en place éventuelle d'un nouveau système. Pour l'exercice, des experts, les syndicats de la fonction publique et des fournisseurs de technologies seront consultés. En attendant, alors que plusieurs employés de la fonction publique sont confrontés à d'innombrables erreurs sur leur talon de paye, certains étant trop payés alors que d'autres sont privés de salaire, le fédéral est encore loin de voir la lumière au bout du tunnel dans ce dossier. Le quotidien, Stéphane Bégin, Marthe Vaillancourt s'est éteinte. Défendresse de la cause des femmes et des victimes d'actes criminels, la Jonquière-oise Marthe Vaillancourt s'est éteinte lundi après avoir eu recours à l'aide médicale à mourir. La dame de 86 ans a été vaincue par un cancer qui s'est attaqué à son foie et ses poumons. Elle souffrait aussi d'un cancer du sein depuis 7 ans. Il y a un peu plus de 2 mois, Marthe Vaillancourt avait accordé une longue et touchante entrevue au chroniqueur Roger Blackburn dans le journal Le Progrès du 16 décembre 2017. Elle se disait sereine face à la mort, surtout qu'elle ne pouvait plus suivre les traitements de chimiothérapie en raison d'une allergie à la médication. La grande dame avait déclaré au chroniqueur qu'elle ne pouvait pas se laisser abattre, qu'elle devait rester forte, mais elle savait que Noël 2017 serait son dernier auprès de ses proches. Marthe Vaillancourt a connu une vie remplie. Elle a été honorée à de nombreuses reprises au cours des 33 dernières années. En 1984, elle était élue femme de carrière et recevait le prix de personnalité féminine de l'AFEAS 3 années plus tard. En 1988, Marthe Vaillancourt a été nommée personnalité régionale des 25 dernières années dans le cadre du 150e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a reçu la médaille de l'Ordre national du Québec et celle de l'Assemblée nationale du Québec, le prix Thomas-Louis Ouellette pour la prévention du crime, sans oublier la médaille du Bleuet d'or de Québec en 1991 et la personnalité de l'année 92 du quotidien. Le tableau d'honneur se poursuit avec le prix de la justice du Québec, celui de la personnalité de l'année Châtelaine, de la femme de mérite du YMCA, de la médaille du lieutenant-gouverneur en 2010, mais aussi de la médaille du gouverneur général en 2011. Lors de cette même année, Marthe Vaillancourt a été faite membre de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction du pays. Madame Vaillancourt a aussi été la fondatrice du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels à Chicoutimi. Encore aujourd'hui, ce service d'accompagnement offert au Palais de justice de Chicoutimi notamment est toujours apprécié par les nombreuses victimes des voleurs, fraudeurs et agresseurs de la société. Le député de Jonquière à l'Assemblée nationale du Québec, Sylvain Gaudreau, a été touché par l'annonce du décès de Mme Vaillancourt. « Je suis sous le choc, même si je savais que c'était pour arriver. Mais lorsque ça se produit, c'est toujours une nouvelle triste », a mentionné M. Gaudreau. « Je lui ai parlé un peu avant Noël. J'ai eu une belle discussion. Mme Vaillancourt était très émotive. Nous avions développé une relation de respect mutuel et de complicité. On se parlait souvent. Lorsqu'elle m'appelait, j'arrêtais tout pour lui parler », se remémore M. Gaudreau. Le député de Jonquière retiendra de Marthe Vaillancourt sa très grande rigueur, elle était toujours bien documentée, ses convictions inébranlables et sa très grande ouverture d'esprit. Elle était d'ailleurs favorable à l'aide médicale à mourir, même s'il était d'une autre génération. Madame Vaillancourt avait livré un bon témoignage lorsqu'il en avait été question. Elle s'est d'ailleurs prévalue de cette aide à mourir, a conclu Sylvain Gaudreau. Dans le soleil, la fin d'un taxi bien spécial. On allait porter les gens à leur porte, on montait leur valise au troisième étage et on la déposait sur le lit. C'était du service, lance Denis Fortin, propriétaire de Taxi Fortin. Ce service de taxi interurbain unique au Québec qui faisait la navette entre la Gaspésie, Québec et Montréal ferme ses portes. L'entreprise de 4 employés basée à Chlorodorme ne veut pas affronter la multinationale Keolis qui l'accuse de ne pas respecter son territoire. Taxi Fortin, fondé en 1949, offrait le service avec 2 minibus de 11 passagers. Ils prenaient les clients à leur porte et les déposaient à leur destination exacte. Aucune autre compagnie dans la province ne possède ce type de permis dit de taxi spécialisé. Agatha Cabot ou Cabot de Chlorodorme utilisait Taxi Fortin pour visiter ses enfants à Montréal et pour se rendre à des rendez-vous médicaux. C'était quand même agréable de voyager comme ça, et plutôt convivial. Il n'y a pas de mots pour dire comment la fermeture peut nous jeter à terre. C'est une perte épouvantable. Aucune autre compagnie ne peut fournir ça, du service porte-à-porte. La rentabilité est difficile à atteindre dans le transport de passagers, indique Denis Fortin. Financièrement, je m'en venais essoufflé. J'ai besoin de renouveler ma flotte cette année et j'aurais eu besoin d'engager de l'argent dans la poursuite. Je manque de courage financier et psychologique, je lance la serviette pour préserver ma santé, ajoute M. Fortin. L'entrepreneur a déjà eu affaire à Keolis, la société mère d'Autocar Orléans Express, quand il a demandé d'élargir son territoire en 2015. M. Fortin avait peu d'espoir de gagner sa cause. J'ai vu leur façon de fonctionner. C'est drastique. Ils sont béton. C'est une multinationale. Taxi Fortin a la permission d'embarquer et de débarquer des gens entre Gaspé et La Martre, en Haute-Gaspésie, puis à Québec ou Montréal. M. Fortin admet qu'il a parfois dérogé à ses règles en prenant des passagers à Saint-Anne-des-Monts ou en les laissant à Mont-Saint-Hilaire, à Drummondville ou à Laval. L'entreprise transporte entre 3 500 et 4 000 passagers par an. Keolis a déposé une requête à la Commission de transport du Québec pour dénoncer le non-respect des conditions de permis de Taxi Fortin sur une route desservie par Orléans Express. Aucune date n'a encore été fixée pour l'audience. Et dans la tribune, Claude Plante, 2 magasins Provigo de Sherbrooke offrent le service d'épicerie en ligne à leur clientèle. La plateforme d'épicerie en ligne des Provigo de la 13e Avenue Nord et de Lennoxville se veut une expérience numérique d'une valeur ajoutée complète. Avec son programme d'épicerie en ligne, Provigo offre aux clients les mêmes prix auxquels ils sont habitués en magasin. Chaque commande est également préparée par du personnel dédié qui choisit les produits les plus frais possibles et qui tient compte des préférences de chaque client afin que sa commande soit exactement comme il la souhaite, annonce la chaîne d'épicerie. À titre d'exemple, un client qui préfère des bananes plus mûres ne recevra pas des bananes vertes, illustre-t-on dans un communiqué de presse. L'Oblat a décidé de lancer sa plateforme d'épicerie en ligne au Québec en raison du succès de ce service ailleurs au pays et de la demande grandissante de la part des consommateurs. Le service a d'abord été déployé en primeur dans le Grand Toronto à la fin de 2014. Il est maintenant offert dans plus de 200 magasins dans 9 provinces, ajoute-t-on. Pour en faire l'expérience en ligne ou pour obtenir plus d'informations sur le service, les clients sont invités à se rendre provigo.ca/about-click-and-collect. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens de Canal M, de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Encore une demi-heure à passer ensemble avec les actualités culturelles et aussi les sujets libres.
On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile.
On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile.
Est si fragile.
Est si fragile.
Est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile.
On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. Est si fragile.
Est si fragile.
Est si fragile.
Car le temps est là, toujours là. Seule justice ici-bas.
On est si fragile.
On marche sur l'or ou sur l'argile. Dépend de ce qu'on a reçu.
On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile.
Est si fragile. Est si fragile. Est si fragile.
Très belle chanson de Luc de la Rochelière. C'était Luc de la Rochelière et accompagné de Gilles Vigneault qui nous chantait « Si fragile ».
Les actualités culturelles, le Conservatoire d'art dramatique a annoncé mardi après-midi qu'il mettait fin au contrat de travail du professeur Gilbert Sicotte. L'institution a pris cette décision après avoir mené une enquête à propos d'allégations de harcèlement psychologique. L'acteur avait déjà été suspendu après la diffusion d'un reportage de Radio-Canada qui s'appuyait sur les doléances d'une vingtaine de personnes, disant avoir été témoin d'abus de pouvoir, d'humiliation et de harcèlement psychologique. Gilbert Sicotte avait défendu ses méthodes d'enseignement dans le reportage. Le conservatoire dit vouloir protéger le lien de confiance qui unit les professeurs à leurs élèves. Régine Laurent, qui était à la tête de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, jusqu'à l'an dernier, rejoint l'équipe d'analystes de TVA Nouvelles et LCN. Madame Laurent analysera et commentera dorénavant divers sujets d'actualité. Infirmière, Régine Laurent est arrivée à la tête de la FIC en 2009, poste qu'elle a occupé jusqu'à sa retraite en décembre. C'est avec énormément d'enthousiasme que j'envisage cette collaboration, a-t-elle souligné. Louis Oliva a tourné avec Bruce Willis après être apparu l'automne dernier dans une scène du film Mother avec Jennifer Lawrence. Voilà que l'acteur et réalisateur québécois Louis Oliva a tourné avec son idole Bruce Willis dans le film Death Wish qui sort vendredi sur les écrans. Death Wish, remake d'un film culte de 1974, a été tourné en majeure partie à Montréal à l'automne 2016. L'histoire est celle d'un père de famille qui décide de se faire justice lui-même après que sa femme a été assassinée. Louis Oliva a participé à 3 jours de tournage durant lesquels il a donné la réplique à Bruce Willis, entre autres. Dirigé par Eli Roth, il a aussi côtoyé Elizabeth Shue et Vincent D'Onofrio. Outre le fait que son personnage s'appelle Louis Oliva ne peut donner plus de détails et ne peut partager de photos, faute de quoi il dévoilerait un punch. C'est un petit rôle, mais dans le déroulement de l'histoire, il est important, explique simplement l'acteur qui n'a pas encore vu le film à l'autre bout du fil. Mais du moins, il peut raconter son expérience et il le fait avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais à peu près 13 ans quand Die Hard, qui met en vedette Bruce Willis, est sorti, raconte-t-il. Je me souviens d'être en train de regarder le film et de me dire qu'un jour j'allais jouer avec lui. J'y croyais tellement. C'est un petit rôle, c'est une petite affaire, mais pour moi, c'est un moment surréaliste. La journée où j'étais assis à côté de lui sur le plateau, le petit gars de 13 ans en dedans de moi était vraiment fier. Alors, allons-y avec Montréal en lumière dans le sanctuaire d'Isabelle Boulay. C'est un article signé Stéphanie Vallet. Isabelle Boulay montera demain sur les planches du théâtre Maisonneuve dans le cadre de sa tournée En vérité, du titre de son plus récent album. La chanteuse a laissé entrer la presse dans son atelier, un lieu très intime qu'elle considère comme le prolongement de sa vie intérieure. Isabelle Boulay partage depuis maintenant 25 ans sa vie et sa carrière entre Paris et Montréal. Mais c'est à Pointe-Saint-Charles que se trouve son havre de paix, un atelier dans lequel elle se plaît à créer, entourée d'objets et de souvenirs qui lui sont chers. « Mon atelier est en dehors de mon lieu de vie. de mon quotidien avec mon petit garçon. C'est ce qui me permet de pouvoir garder un équilibre et de continuer de créer un peu comme les garçons qui ont bien souvent leur studio d'enregistrement, explique Isabelle Boulay. C'est un peu comme dans l'œuvre de Virginia Woolf, une chambre à soi. J'ai toujours eu besoin, même enfant, de pouvoir être en réclusion quelque part parce que je vis toujours entourée de plein de gens. Alors qu'elle évoque son attachement pour ce jardin secret, la chanteuse se plaît à revenir sur la petite histoire qui se cache derrière les murs de son sanctuaire. J'ai grandi dans un bar et un restaurant en Gaspésie et on a découvert que cet endroit-là était la salle de billard de la plus vieille taverne de Pointe-Saint-Charles. On ne se refait pas. Quand je suis entrée pour la première fois pour visiter, je trouvais que ça sentait comme chez mon père. Disons que c'est venu me chercher, confie-t-elle. Sur scène, demain soir, Isabelle Boulay promet de faire partager au public certains des moments marquants de sa carrière, mais aussi des chansons de son plus récent album « En vérité ». Je ne dirais pas que c'est un spectacle rétrospectif comme celui que j'ai fait sur les plaines d'Abraham, indique la chanteuse qui sera accompagnée par 5 musiciens sous la direction de Simon Godin. C'est un spectacle à l'image de l'interprète façonné par le temps et un certain nombre de chansons. Toutes les dimensions de ma carrière se retrouvent dans ce show-là. Isabelle Boulay laissera ainsi le public entrer dans les coulisses de certaines chansons phares de sa carrière, n'hésitant pas à diffuser des extraits audio de la voix de Carla Bruni quand celle-ci lui a offert « Le garçon triste », titre tiré d'En vérité, ou à raconter l'histoire qui se cache derrière « Je t'oublierai, je t'oublierai ». Quand j'ai quitté Starmania pour poursuivre ma carrière, Luc Plamondon est venu taper à la porte de ma loge et il m'a donné une enveloppe qui contenait une cassette en me disant « Richard Cochiante et moi avons fait une chanson pour toi. Si tu l'aimes, elle t'appartient », se souvient la chanteuse. Alors que la tournée, en vérité, se poursuivra un peu partout au Québec, Isabelle Boulay est déjà prête à se lancer dans un nouveau projet d'interprète. « Je dois trouver l'idée qui va me parler le plus et obéir à mon instinct, mais je vais d'abord m'arrêter un peu » et laisser l'eau remonter dans le puits, conclut-elle, au Théâtre Maisonneuve, donc le 1er mars à 20h. Allons-y donc avec les trésors de l'atelier d'Isabelle Boulay, un album de diamants. On m'a remis cette sculpture pour célébrer le million d'albums vendus en France de Mieux qu'ici-bas. On s'est rendu à 1,6 million au final. Je trouve cet objet très beau. On dirait des marches qu'on monte à l'infini, mais qui partent d'un socle solide. Il y a une très belle symbolique, comme une quête qui ne finit jamais. Je crois que dans la vie, on ne peut atteindre le succès que si on est bien ancré dans le réel. Premier pas, c'est le prix d'interprétation de la chanson de Grenby que j'ai remporté en 1991. J'avais chanté Amsterdam de Brel et Naufrage de Gilbert Langevin et d'Anne Bigra. Ce dont je me souviens le plus de mes participations au festival, c'est d'y avoir rencontré Dédé Fortin. Je me souviens très bien qu'à partir de ce moment, je notais dans mon calendrier les dates de concert des colocs et je m'arrangeais toujours pour revenir au Québec à cette période-là. Dédé me touchait et m'impressionnait beaucoup. À la conquête de la France, j'avais gagné 2 trophées aux 16e Victoires de la musique, album découverte et artiste découverte de l'année. C'était symbolique pour moi d'avoir un prix comme celui-ci. Ce n'était pas rien. C'est la première marque d'affection de l'industrie et du public français. Réussir outre-Atlantique venait au bout d'une somme assez importante de travail. Ma mère écoutait beaucoup de variétés françaises et j'ai commencé à rêver de la France très jeune. Je suis un peu la plus française des petites Québécoises. Ce prix célébrait donc un peu mon enfance aussi. Un rêve de petite fille, c'est une robe de Christian Lacroix que j'ai portée pendant toute la tournée de Nos lendemains. Il m'a tellement fait rêver. C'est un grand artisan de la mode française. Souvenir de Starmania, j'ai subtilisé cette robe qu'on voit donc dans cet article de la presse. Je voulais un souvenir de mon passage dans cette comédie musicale. De toute manière, elle n'aurait fait à personne d'autre que moi et il en existe une autre. Cette robe est importante car quand j'étais étudiante au cégep de Limoilou, j'écoutais beaucoup le disque de Starmania. Le personnage dont je me sentais le plus proche à 16 ans était Marie-Jeanne. J'avais passé 3 auditions et je me souviens très bien de m'être retrouvée sur la galerie de la maison de Plamondon à Outremont et de lui avoir pris les 2 mains en disant « Donne-moi le rôle, je t'en supplie, tu ne seras jamais déçu. » J'ai voulu garder un souvenir de cette deuxième peau dans laquelle j'ai vécu pendant presque 3 ans. Et pour l'amour de Johnny. Johnny est une icône, une idole. Je le croisais à la salle de sport quand j'étais à Paris pour Starmania, et quand il entrait, il y avait une sorte de silence. Je n'ai jamais osé l'aborder. J'ai fait l'Olympia et son associé en restauration, Claude Bouillon, l'a amené me voir. Johnny est descendu dans ma loge et m'a demandé si je voulais aller chanter avec lui pour son 60e anniversaire au Parc des Princes. La photo a été prise pendant la tournée des stades avec lui en 2003. Je n'ai jamais vu une tournée aussi grandiose.
Que mes draps se souviennent de nos matins livides, que le sang de mes veines se fige ou bien se vide, que mes doigts ne retiennent que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne bien au-delà des mots. Je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. Je t'oublierai. Que mes pieds se souviennent du sable où tu marchais. Que ta voix me revienne dans un supermarché. Que la télévision me renvoie ton regard. Qu'on appelle ton prénom dans un aérogare. Je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. Je t'oublierai. La lune et le soleil se souviendraient de toi. Comment veux-tu que moi, tout à coup, je t'oublie? Même si dans mon sommeil je te touche, je te vois, je ne reconnais pas le jour d'avec la nuit. Je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. Je t'oublierai. Rien ne sera plus pareil après t'avoir aimé. Je ne reconnais pas les lieux où l'on allait. Tes yeux ont mis le feu.
Voilà, on vient d'entendre Isabelle Boulay, la pièce « Je t'oublierai ».
Sujet libre, je vais lire un article de Mario Girard, c'est une chronique intitulée « Une purée et ses grumeaux ». Cela fait maintenant partie des habitudes de l'Empire. L'une des entités de Québecor a un produit à promouvoir ou à vendre et utilise une autre entité pour le faire. Avec le temps, on s'est habitué à cela. On s'est tellement habitué que la plupart des médias québécois ont adopté cette méthode, pourvu que ça demeure de l'information pertinente pour le public. Mais ce qu'a fait le Journal de Montréal hier, c'est autre chose. Il a carrément exploité un sujet d'actualité afin de promouvoir l'un des produits de l'Empire. Le tabloïd a consacré sa une à l'histoire d'une jeune fille qui aurait fugué d'un centre jeunesse de Laval où elle séjournait pour aller retrouver son proxénète à Toronto. Le gros titre, « Fugueuse comme à la télé », faisait évidemment référence à la très populaire série télévisée de TVA, propriété de Québécois. Et bang, en cinq mots, on a passé dans un robot culinaire à 10 vitesses information et promotion pour en faire une purée pleine de grumeaux. Je crois sincèrement que l'histoire de cette jeune fugueuse méritait d'être traitée sous forme de nouvelle. Et je ne peux qu'éprouver de la sympathie pour la mère de cette adolescente qui était interviewée dans l'article publié en page 3. Un tel cauchemar est la dernière chose que veulent vivre des parents. Mais permettez que je vous parle du malaise, du terrible malaise que j'ai eu en découvrant dans cet article plusieurs embranchements vers la série télévisée. Ce malaise a été doublé quand j'ai constaté qu'en page 37 du même journal, est-ce le fruit du hasard, on nous annonçait que la série allait nous offrir une finale haute tension et que les téléspectateurs devraient faire preuve de patience avant de découvrir ce dénouement, à moins de s'abonner au Club Illico, cette plateforme de vidéos sur demande appartenant à Québécois. Car, comme le précise le journaliste qui signe l'article dans la section des arts pour $9,99 par mois, vous pouvez assouvir votre curiosité en vous abonnant au Club Illico qui offre les épisodes 9 et 10. Un peu plus, et on nous disait que cet abonnement venait avec un popcorn format familial double beurre. Je lisais tout cela et je ne savais plus dans quel univers je me trouvais. Réalité, information, fiction, promotion, infopub ou un mélange malsain de tout cela? Quelle sera la prochaine étape? Mettre en une du Journal de Montréal l'histoire d'une chanteuse qui a agressé un homme pour parler de l'échappée? Étaler l'histoire d'un jeune homme qui s'est procuré de la drogue dans un centre de détention pour parler de l'heure bleue? Le plus grave dans cette affaire, c'est que ce mariage de mauvais goût se fait dans une quasi-indifférence. Hier, à part quelques personnes allumées et sensibles qui ont osé écrire leur indignation sur les réseaux sociaux, personne n'a semblé remarquer cet inconcevable mélange. Pourtant, le Conseil de presse, l'organisme qui agit comme chien de garde en matière de déontologie et d'éthique dans le monde des médias au Québec, est très clair à ce sujet. Les journalistes et les médias d'information évitent de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l'information, écrit-on dans la section portant sur l'indépendance dans le guide de déontologie. Mais voilà, Québécois et ses appendices se sont désaffiliés de l'organisme en cessant de payer les cotisations annuelles. Cela n'empêche pas le Conseil de presse de regarder les plaintes formulées à l'égard de Québécois et de rédiger des rapports en accord avec leurs règles. Je comprends la difficile concurrence à laquelle les médias sont confrontés. Je comprends qu'il faut trouver de nouveaux moyens pour tenir tête aux géants. Mais tout en cherchant des stratégies qui seront efficaces, laissons l'information au monde du réel et la fiction au monde de l'imaginaire. Tous les patrons de presse, y compris Pierre-Carl Péladeau, répètent en chœur depuis plusieurs mois que le milieu québécois de l'information a besoin d'aide et d'appui. Ce n'est pas en lui faisant perdre son sérieux qu'on va l'aider à s'en sortir. Tendance Piqué-Souben, c'est dans le Journal de Montréal la collection sur mesure pour tous les domaines de Piqué-Souben, en collaboration avec le détaillant canadien RW Eco, vient tout juste d'arriver en magasin et en ligne. Les fans de l'icône de la NHL, auront le choix parmi les 6 modèles de complets et les accessoires pour compléter les looks. Les couleurs et les imprimés sont à l'honneur dans les tons de bleu, de gris et même d'un magnifique rose très tendance. Il n'y a pas si longtemps, toute l'équipe canadienne de RW Echo s'est déplacée à Nashville pour le shooting photo de cette collection. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe et de faire parler mode à P.K. Subban. C'est Jean Héroldi qui signe le texte. Alors, l'entrevue. Est-ce que votre style a changé depuis que vous êtes à Nashville? P.K. répond « Non, je ne crois pas. » Même pas les chapeaux? P.K. répond « J'ai toujours aimé les chapeaux et les bottes de cow-boy. Ça remonte à mon adolescence lorsque je jouais au hockey à Belleville, en Ontario, que l'on surnommait le Petit Texas. » À cette époque, j'écoutais beaucoup de musique country. C'est comme un retour aux sources. Pourquoi aimez-vous la mode? J'aime la mode en général et je crois que les vêtements doivent connecter avec les émotions, les événements et le message que l'on veut passer. Il y a un temps pour les ouatés et les casquettes, mais lorsque l'on veut se faire prendre au sérieux, rien ne bat le complet pour donner de l'assurance. Quelle est votre inspiration pour cette collection? Cette collection est à mon image. J'aime avoir une variété de vêtements qui me permet de choisir selon mon humeur et mon emploi du temps. Nous sommes donc allés plus loin avec des imprimés et des couleurs tendances, mais nous avons aussi deux modèles, dont un smoking pour les occasions spéciales. La priorité reste encore le confort avec des tissus qui suivent les mouvements et qui donnent envie de porter un complet dans la vie de tous les jours. Quel est le pire faux pas en mode, selon vous? P.K. Subban répond « C'est certain que les bas dans les sandales, c'est pas super, mais je crois que nous devons porter une attention spéciale aux chaussures qui devraient toujours être bien entretenues et impeccables. » Botox pour les Oscars, c'est un des événements les plus suivis de la planète. C'est aussi un des plus photographiés. Ce n'est pas pour rien que les stars qui défilent sur le tapis rouge lors de la soirée des Oscars s'y préparent pendant des semaines, voire des mois, afin d'y paraître impeccables. Ces traitements beauté vont bien au-delà du simple traitement facial. De nouvelles technologies s'attaquent toujours de mieux en mieux aux rides, assurant aux vedettes un teint jeune et lumineux. Et le fameux Botox, bien que parfois critiqué, demeure le roi de la fête. Bienvenue à Hollywood, c'est un article signé Emmanuel Plante. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. À la prochaine et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour les paractualités.